Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Il nous a encore renouvelé le souffle de vie ce matin. Quel bonheur, quelle joie d'être devant sa présence. Amen. Amen. Nous lui rendons toute la gloire. Nous lui disons merci pour tout, merci pour sa présence. Merci pour son amour, merci pour son pardon qu'il nous accorde et merci pour sa majesté, pour sa magnificence au milieu de nous. Alléluia. Dieu est merveilleux, il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour tes bontés, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien faire, que sans toi nous ne sommes rien. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te rendre des multiples actions de grâce. Amen. Alléluia. Acclamons encore Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est glorieux. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi nous allons lui offrir ce cantique qui dit « Car il est glorieux ». Alléluia. Amen. Amen. Depuis ta position, bien-aimé dans le Seigneur, chante pour ton Dieu. Amen.
L'agneau est souverain.
Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour tes bontés. Merci éternel Dieu de gloire pour toutes les personnes à qui tu as renouvelé le souffle de vie. Merci pour ton amour infini Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons les multiples actions de grâce, car tu es l'unique, tu es celui-là même avec qui on ne peut pas résister. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini. Merci de nous aimer comme nous sommes. Merci de nous accueillir dans ta bergerie, Seigneur. Oui, tu es digne d'être loué, d'être élevé, d'être magnifié. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, alléluia. J'aimerais que depuis ta position, tu commences encore à l'acclamer et lui dire merci Seigneur, et lui dire Seigneur je t'aime, lui dire que Seigneur sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Voilà pourquoi ce matin je m'abandonne à toi, je me donne à toi Seigneur Dieu de gloire, viens me fortifier, viens me guérir Seigneur, viens me donner la force ce matin de parler à ton peuple. Viens Père éternel tout puissant, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, car sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tout puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'éternel pour vos vies, pour toutes les personnes qui sont connectées. Ne vous déconnectez pas, suivez jusqu'à la fin, car Dieu va nous parler au travers de sa parole. J'aimerais encore, oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'on la acclame, qu'on lui dise merci Seigneur, alléluia, alléluia, merci, 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 alléluia. Dieu est merveilleux, bienvenue dans le Seigneur. Ne nous lassons pas de lui dire Seigneur je t'aime, ne nous lassons pas de lui demander pardon lorsque nous tombons. Il est notre papa, il nous aime tel que nous sommes. Et nous aussi, nous devons faire un effort pour changer. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore dans la joie ce matin d'être devant vous et de voir que, bon, beaucoup ont laissé leurs occupations pour venir écouter la parole de Dieu. Pas le prophète Jérémie, mais la parole de Dieu, parce que ce matin, il va encore nous parler. Amen.
Amen.
Dieu est merveilleux. Merveilleux. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Que ma personne s'efface et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Viens nous parler au travers de ce message, Saint-Esprit de Dieu. Localise quelqu'un ce matin. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu aller à l'église ou se lever pour suivre les cultes en direct, mais ne peuvent pas parce qu'ils sont tranquillement dans leur lit, sous leur couette, mais Saint-Esprit de Dieu visite ces personnes, que le diable n'ait pas raison sur eux et qu'ils se disent « Sans Dieu, je ne suis rien, alors je me fais violence pour aller écouter la parole de Dieu. » Amen.
Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui c'est « Si Dieu existait, my God,
Amen.
Si Dieu existait ». Je crois que tous nous avons déjà entendu cette parole, si Dieu existait. Oui, j'aimerais vous dire ceci, qu'il y a un Dieu, pas des dieux, mais il y a un Dieu, l'Éternel des armées. Il existe, il est bien vivant et il est tout puissant. Si nous sommes debout ce matin, c'est parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là. Alors, lorsqu'on traverse des situations difficiles, voici la phrase qui nous vient. Si Dieu existait, alléluia.
Amen.
Je crois que tous, autant que vous êtes, nous sommes là, nous avons déjà entendu cette parole, si Dieu existait, et même nous-mêmes, nous avons déjà eu à le dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal. Est-ce que Dieu ne voit pas ce que je vis? Est-ce que Dieu ne voit pas qu'on m'humilie? Est-ce que, je vous assure que, est-ce que c'est un esprit destructeur qui t'éloigne de la présence de Dieu? Vous voyez, on ne voit pas ce que nous faisons. On voit seulement que Dieu ne nous assiste pas, Dieu n'existe pas, Dieu ne fait rien. Si Dieu, oui, Dieu existe bel et bien. C'est toi qui ne connais pas ton Dieu. C'est toi qui te plains tous les jours. C'est toi qui murmures et c'est toi qui veux entraîner les autres dans la perdition en disant « Tu es devant la présence de Dieu, soi-disant, mais ta vie ne change pas. » Mais pour que ta vie change, est-ce que toi-même tu as cru en lui et tu reconnais, est-ce que tu l'as reçu pour pouvoir marcher selon sa volonté pour que tu ne puisses pas faire n'importe quoi? Non, mais tu es là en train de l'accuser si Dieu existait. Arrêtez de nous parler de votre Dieu. Jésus revient bientôt. Si Jésus revenait bientôt, beaucoup de choses ne se passeraient pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme est mauvais. La preuve, tu accuses Dieu. Que tu ne crois pas en lui. Donc tu ne peux être que négatif. Et quand on vient te parler de lui, tu dis, encore lui. Et qu'est-ce qu'il a fait de bon dans ta vie? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous nous trompons largement. Dieu, lorsque tu dis à quelqu'un, je suis en Christ, je suis enfant de Dieu, ils veulent voir le matériel. Ils veulent te voir dans une grande voiture, une belle maison, et que tu voyages comme tu veux. Pour eux, ça c'est la bénédiction de Dieu. Ah oui, vraiment, ton Dieu est vivant, ton Dieu existe, ton Dieu t'a béni. Et parmi nous tous là, Dieu nous a ramenés de loin. Il y a des personnes qui étaient alcooliques. Il y a des personnes qui étaient dans la prostitution. Il y a des personnes qui étaient colériques, impulsives. Alléluia. Mais Dieu, lorsqu'on l'a rencontré, il a fait un travail extraordinaire dans nos vies. De colérique que tu étais, tu deviens une personne aimable. Au point où les gens sont étonnés. Quelle transformation, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu étais prostituée, tu étais la risée de ton quartier. Lorsqu'on te voit, on se dit, mais regarde-moi encore cette personne-là, elle va encore se faire se prostituer et tout. Donc, on ne t'appelait même plus par ton nom. C'était la prostituée, c'était la voleuse, c'était la femme qui couche avec les hommes. C'est-à-dire qu'on oublie ton prénom. Mais lorsque tu as rencontré Jésus, il a dit, je suis tout ça. Je te donne une nouvelle identité. Ça, c'est plus qu'une maison. Plus qu'un travail, plus qu'un mariage, parce qu'il t'a transformé. Lorsque tu fais la rencontre de Jésus, tu es transformé. Donc, le matériel vient après. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alors, arrêtons de dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu existait, il n'y aurait pas de maladie. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dont je tairai les noms, qui sont des multimilliardaires, qui sont dans des pays développés, des pays, la première puissance mondiale. Alléluia. Ils sont riches, rien ne leur manque. Ils ont les meilleurs médecins du monde. Ils aménagent même leur maison comme si c'était un hôpital. Ils donnent de l'argent pour des recherches. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas Jésus, ton argent te regarde. Tes richesses te regardent. Les meilleurs médecins du monde te regardent. Tu es seul au monde parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et c'est ce genre de personne qui dit, si Dieu existait, je ne serais pas dans cette condition. Mais tu ne l'as jamais accepté. Tu n'as jamais cru en lui. Et tu veux qu'il intervienne dans ta vie. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Jean 1, 12 nous dit ceci, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Alléluia. Est-ce que Dieu ne voit pas que cette personne est malade? Pourquoi Dieu ne guérit pas? Et pourtant, cette personne fait du bien. Cette personne participe à la richesse de la maladie. Cette personne, mais cette personne n'a jamais accepté Jésus. C'est bien beau d'être gentil. Tu rends service aux gens, c'est très bien. Mais où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu as pensé à ton éternité? Non, tu penses à faire du bien sur cette terre, mais Dieu te cherche. C'est bien tout ce que tu fais. Mais tu es où? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas dans la bergerie. Où es-tu? Et tu dis, si Dieu existait, avec tout le bien que je fais, il me guérirait. Non, Dieu n'est pas impuissant. Dieu existe, mais tu ne l'as jamais accepté. Tu n'es juste que sa créature. Tu n'es pas son enfant. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé le monde était parfait. Donc, le mot mal n'existait pas. Il est lui-même parfait. Tout ce qu'il a créé est parfait. Mais l'homme, dans son incrédulité, a péché, a voulu tenter Dieu. Tout commence par le livre de la Genèse. Alléluia. Tout commence par la Genèse. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin de bien écouter le message. Pas parce que le prophète Jérémie parle, mais parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous ouvrir nos yeux. Dieu veut nous ouvrir nos oreilles pour qu'on entende ce message. Et merci de le partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, je disais que le titre, le thème était « Si Dieu existait ». Alléluia. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance. My God. En même temps, Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tribulation. Mais vous prenez cette tribulation-là comme si c'était, comme si Dieu nous avait dit, vous n'aurez rien. Comme vous êtes mes enfants, alors rien de mal ne peut vous arriver. Il a bien dit dans sa parole, dans Jean 16, que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Donc, on est au courant qu'il y aurait des tribulations. Amen.
Amen.
Alors, s'il existait vraiment, pourquoi tant de souffrances, de guerres, de mal, de viol, de vol, de division? Il n'y a pas d'amour, on dit qu'il est amour. Est-ce que c'est Dieu qui est venu dire que ne vous aimez pas? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que... Non, c'est nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas parce que nous sommes des mauvaises personnes. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, on a un côté animal. Et lorsque nous passons par des tribulations, le côté animal, alléluia, ressort en nous et on oublie qu'il y a Dieu. On ne marche plus devant Dieu parce que la souffrance est là, la maladie est là. Donc, on se dit, mais pourquoi je vais prier? Il y a des gens qui prient pour moi, rien ne se fait. Je prie, rien ne se fait. Mais tu pries avec quel cœur? Est-ce que quand tu pries, tu as déjà, tu as cette foi qui dit que il va me guérir? Les hommes ont parlé, les hommes m'ont condamné, mais je sais que le Dieu que je prie, l'Éternel des armées, alléluia, va me guérir, quels que soient les dires des hommes. Même s'il ne me guérit pas, mais le fait que j'ai confiance en lui, le fait que je l'ai accepté, je l'ai reçu, je prépare mon éternité. Et je sais que si le jour où je mourrai, alléluia, je ne vivrai pas la mort éternelle, mais je vivrai la vie éternelle. Amen.
Amen.
Parce que beaucoup de gens vont dire, tu as prié, certes, mais pourquoi cette personne est morte? Et tu as dit que Dieu allait ressusciter la personne. Tu as dit que Dieu allait guérir la personne. Une chose que nous oublions, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être la personne pour qui tu as prié ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Et toi, tu as prié pour cette personne. Tu as demandé, est-ce que tu connais Jésus? Non. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Oui. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que si cette personne meurt parce qu'elle a accepté Jésus, elle ne vivra pas la mort éternelle. Tu as fait quelque chose, tu as sauvé cette personne des ténèbres et cette personne était réceptive. Voilà pourquoi cette personne, en mourant, connaîtra la vie éternelle. Alléluia. Il n'est pas dit forcément que lorsque tu pries pour un malade, il va guérir. Sauf que le fait qu'il ait accepté Jésus, il va en paix. Amen.
Amen.
Il va en paix. C'est parce qu'on a l'habitude de dire quand quelqu'un meurt, la phrase qui nous vient rapidement, repose en paix. Seigneur, accueille-le dans ta maison. Comment Dieu va l'accueillir dans sa maison? Il n'a jamais accepté Jésus. Et Dieu va l'accueillir dans sa maison? Ça, c'est une hérésie, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout commence dans la Genèse. Dieu donne des recommandations à Adam pour qu'il puisse marcher selon les commandements de Dieu, pour qu'il ne puisse pas tomber dans le péché. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Adam, Ève et Adam ont désobéi. Et là, vous allez dire, si Dieu existait, il n'allait pas faire ça. Dieu a donné des recommandations. Dieu, quand Dieu nous appelle, il ne nous envoie pas comme ça. Il nous donne des recommandations. Parce qu'il sait que là où nous allons, c'est dangereux. Et que si on désobéit, il y aurait des conséquences. Toute désobéissance a des conséquences. Nous allons lire Genèse 2, versets 1 à 6. Alléluia.
Amen.
Genèse 2, verset... Non, excusez-moi. Genèse 2, versets 15 à 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Genèse 2, versets 15 à 17. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que ce n'est pas une recommandation que Dieu a donnée à Adam et Ève? Alléluia.
Amen.
Donc, il a donné cette recommandation. Mais malheureusement, ils ont désobéi. Genèse 3, versets 1 à 6. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez, il sème le doute dans ta pensée. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit, Dieu a-t-il dit? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour semer le doute dans ta tête. Alléluia. Donc, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien-aimé, il a donné des recommandations dans Genèse 2, versets 15 à 17. Amen. Genèse 3, versets 1 à 6, ils ont désobéi. C'est la femme qui a commencé. Alléluia. Et j'ai dit que toute désobéissance a des conséquences. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé à la désobéissance? Non. Donc, s'il y a des conséquences, est-ce que c'est... Il t'a bien prévenu. Mais tu vas te lever, tu dis, si Dieu existait, cette situation ne me serait pas arrivée. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que la situation arrive? et que tu te lèves tout bonnement et dire si Dieu existait. Alléluia.
Amen.
Mais Dieu, il existe. Alléluia. La désobéissance a des conséquences. Genèse 3, 7 à 19. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu, cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Donc tu as désobéi, tu as mangé le fruit de l'arbre du bien, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alors Dieu lui dit, l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Hé, femme, réponds-toi de ce que c'est toi qui as fait rentrer le péché dans le monde. Alléluia.
Amen.
Il dit carrément, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Mais le serpent, c'est le monologue. C'est quoi le monologue? C'est que toi-même, tu combats dans ta tête. C'est pas le serpent, l'animal, non. C'est que Dieu, là, tu te dis, mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi Dieu a interdit? C'est-à-dire que tu veux forcément braver l'interdit pour savoir ce qui se cache derrière cet interdit. Mais en ignorant que les conséquences sont graves. Alléluia.
Amen.
Le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Voyez, ça, c'est les conséquences de la désobéissance. Quand Dieu a tout créé, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de mal. Mais parce que Ève a péché, aujourd'hui, nous accouchons avec douleur. Est-ce que c'est Dieu qui a enfanté le péché? Non. Et pourquoi nous nous levons et nous disons, si Dieu existait, il aurait pu faire en sorte qu'on accouche tranquillement. Je vous ai dit, tout part de la genèse du jardin d'Éden. C'est parce que Ève a désobéi que le Seigneur a dit, tu enfanteras avec douleur. Alors pourquoi tout autant que nous sommes, nous enfantons avec douleur. Sauf, bien évidemment, si vous allez faire cette piqûre qu'on appelle la péridurale. Mais qui a aussi des conséquences très graves. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait cette piqûre et qui ne se sont pas relevées, qui marchent avec les béquilles ou qui sont carrément sur chaise roulante. Alléluia. Voilà. Tu enfanteras avec douleur. Toi, tu peux encore faire la péridurale. C'est-à-dire que tu désobéis doublement. Alléluia.
Amen.
Dieu est merveilleux et bien-aimé dans le Seigneur. Amen.
Amen.
Alors, puis il dit à l'homme, non, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Alors le sol sera maudit à cause de toi, à cause de la désobéissance d'un homme. Le sol sera maudit, toute la terre est maudite à cause de la désobéissance d'un homme. Je vous pose encore cette question. Est-ce que c'est Dieu qui nous pousse au mal? Est-ce que c'est Dieu qui nous pousse à désobéir? Non. C'est l'iniquité de l'homme. C'est-à-dire que tu te dis, mais il est Dieu, il m'a créé. Moi, je vis sur cette terre, je vais tester. Pourquoi Dieu interdit, je vais tester? Parce que tu es sur la terre, eh bien, tu fais comme tu veux. Mais tout a été écrit depuis la Genèse. Alléluia.
Ouais, amen.
Donc, le Seigneur dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. À la sueur de ton front que tu vas manger. Si on n'avait pas désobéi, tout tomberait du ciel. C'est-à-dire qu'on n'allait pas se casser la tête. Qu'est-ce que je veux manger? Ah, il pleut, il faut encore que je me réveille sous la pluie, aller travailler. Oui, tout ça, ce sont les conséquences de la désobéissance. Arrêtons de dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance, il n'y aurait pas de douleur, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de guerre. Dieu, il existe. C'est notre mauvais cœur qui fait en sorte qu'il nous pousse au mal. Et puis, quand on n'en peut plus, quand on est vraiment dépassé, on dit, ah, s'il existait, hein? Oui, il existe. Amen. Le verset 18 dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux personnes encore dans la Bible. À cause de la jalousie, il tue son frère. Alléluia! La jalousie est un esprit qui te pousse à faire du mal. La jalousie est un esprit qui te fait croire que Dieu n'existe pas, que Dieu ne peut rien faire pour toi. La jalousie est un esprit qui t'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi tu es poussé à faire du mal. Genèse 4, verset 1, alléluia, à 8, la parole de Dieu dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vais d'abord m'arrêter par là. Bien-aimé, de quelle manière tu fais ton offrande à Dieu? Est-ce que l'offrande de Caïn n'était pas une bonne offrande? Il a donné aussi ses prémices, n'est-ce pas? Mais il a donné cette offrande avec quel cœur? Il y a des personnes qui donnent leur offrande à Dieu avec orgueil. J'ai pu, j'ai fait, c'est moi. Alléluia. Bien aimé, Dieu regarde au cœur. Les gens diront, mais il a donné ses prémices aussi. Pourquoi Dieu a favorisé Abel? Le cœur d'Abel était différent du cœur de Caïn. Il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles à la dîme, qui sont fidèles aux offrandes, mais leur vie ne change pas. Parce qu'ils ne le donnent pas avec un bon cœur. Parce que pour eux, c'est leur intelligence, c'est leur travail qui leur a donné cet argent et tout. Ils se lèvent tous les matins et tout. Donc, ils méritent leur salaire. Ce n'est pas Dieu. Mais j'aimerais te dire ceci. Qui te donne la santé, qui te donne la force et le courage d'aller dans ton travail, c'est Dieu. S'il décide que tu ne te réveilles pas ce matin, tous tes projets que tu avais faits la veille ne se réaliseront pas. La manière dont tu élèves la voix pour ton Dieu, tu l'élèves pour montrer aux autres que tu pries mieux que les autres, ou bien tu l'élèves parce que tu reconnais les bienfaits, les bontés de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu a regardé au cœur de ces deux hommes. Il a vu la sincérité du cœur d'Abel. Caïn était rempli d'orgueil. Le verset 6 dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, le Seigneur dit à Caïn de dominer sur le mal, de dominer sur... Parce qu'il était... Dieu a vu qu'il était sur le point de commettre quelque chose à cause de la jalousie. Alléluia. Donc, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur le mal. Il nous a donné le pouvoir, alléluia, de marcher sur les scorpions et les serpents. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le mal. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur le mal. Donc nous avons cette capacité. Mais Caïn, c'est-à-dire que la haine était remplie en lui. La jalousie était remplie en lui. Il s'est dit, mais pourquoi Dieu n'a pas agréé mon offrande? Et il s'est mis en colère. La haine est rentrée en lui. Et lorsque tu es en colère, lorsque la haine en toi, tu enfantes la vengeance. Et lorsqu'il y a vengeance, forcément, tu veux poser un acte, bien aimé, que tu vas regretter. Alors, le verset 8 dit ceci. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La jalousie te pousse au meurtre. La haine te pousse au meurtre. La colère te pousse au meurtre. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Caïn de tuer son frère? Puisqu'il a dit ici, au verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché, c'était quoi? C'est qu'il allait commettre un meurtre. Alléluia. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur ce péché-là que tu veux commettre. Si Dieu existait, Caïn n'aurait pas tué Abel, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Dieu existe. Dieu a bien averti Abel et Caïn. Alléluia. Bien aimé, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il fallait qu'il soit patient. Dieu, il a fait une promesse. Lorsque Dieu promet, il réalise la promesse. La promesse s'accomplit. La promesse allait s'accomplir, mais sa femme Saraï a désobéi en envoyant son mari vers sa servante pour qu'elle ait un enfant. Elle n'a pas été patiente, elle a désobéi. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Sarah à la désobéissance? Non. Vous voyez, lorsqu'on est impatient, on veut aider Dieu. Dieu a promis, a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Donc, Dieu, c'est lui qui décidait du couple d'Abraham. Sachant bien que Abraham et Sarah étaient âgés et que scientifiquement parlant, ce couple ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais Dieu, alléluia, vient contredire tout ça. Dans sa toute puissance, dans sa gloire, il vient confondre l'humain. Alléluia. Amen. Donc, Sarah ne pouvait plus enfanter. Elle a cette envie de dire à son mari, mais pourquoi tu crois à ce que Dieu t'a dit? Regarde l'âge que nous avons. L'âge ne fait qu'avancer et on n'a pas d'enfant. Donc, va vers ma servante. Donc, tu pousses ton mari à commettre l'adultère, sachant bien que l'adultère est un péché, c'est quelque chose que Dieu condamne. Mais tu pousses, ils étaient tellement fusionnels que Abraham a écouté sa femme. Mais cet enfant n'était pas le fils de la promesse. Cet enfant est né dans des émotions, parce que je suis seule et tout. Non, Dieu a promis, il ne veut plus me donner d'enfant. C'est-à-dire que tu vas raconter n'importe quoi. Et tu dis, mais j'ai une solution. J'ai ma servante qui est jeune. Donc, je vais envoyer mon mari vers elle et puis on aura un enfant. Sauf que cet enfant n'était pas celui que Dieu avait destiné au couple Abraham et Saraï. Alléluia.
Amen.
Genèse 16, versets 1 à 3. Amen.
Amen.
Genèse 16, versets 1 à 3. Voici ce que la parole de Dieu dit. Saraï, femme d'Abraham, donc c'était à l'époque, avant c'était Saraï, elle n'était pas encore passée à Sarah, il n'était pas encore passé à Abraham. Amen. Donc Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit, excusez-moi, à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Elle dit, voici l'Éternel l'a rendu stérile. Alléluia. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je avec elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons de dire si Dieu existait. Le mal, le péché que Saraï a conçu, ce n'était pas Dieu qui l'a poussé, sauf qu'elle était impatiente. Vous voyez, l'impatience te pousse à agir selon tes émotions. Amen. L'impatience te pousse à agir selon tes émotions. Dis que je vais le faire, j'en ai marre d'attendre. Tu veux aider Dieu. Les temps et les circonstances lui appartiennent. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas aider Dieu, sinon on commet l'irréparable. Alléluia. Donc je dis que la désobéissance a des conséquences. Amen. Genèse 3, aujourd'hui nous allons faire beaucoup de lectures. Genèse 3, versets 7 à 19. Amen. Nous avons déjà lu Genèse 3, versets 7 à 19. Excusez-moi. Alléluia. Donc, on vient de lire Genèse 16, versets 1 à 3. Amen. Donc, Dieu ne pousse personne à faire du mal. Dieu ne pousse personne à la désobéissance. Mais c'est notre instinct animal qui ressort lorsque nous sommes impatients. Amen. Nous allons prendre le cas de la femme de Lot. Voilà. Amen.
Amen.
Quand les anges sont allés à Sodome et Gomorre pour sortir Lot de ce peuple inique, de ce peuple idolâtre, il y a une recommandation qui a été donnée. Amen. Mais nous sommes toujours impatients. Nous voulons toujours contredire. Nous voulons aider Dieu ou nous voulons faire à notre manière. Je dis la désobéissance a des conséquences. Alléluia. Genèse 19, versets 16 à 17. Genèse 19, versets 16 à 17, la parole de Dieu dit ceci. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. C'est qui? Ce sont ces trois anges. Par la main, lui, sa femme et ses deux fils.
Ses deux filles.
Quand je dis les hommes, ce sont les anges qui sont allés à Sodome et Gomorre pour sauver Lot, pour les sortir de ce peuple, parce que Dieu voulait sauver Lot et sa famille. Alléluia. Donc, et comme il tardait, il sait qui c'est Lot, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière, derrière toi et ne tarde pas dans toute la plaine. Quoi? Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Donc, c'était Lot et sa famille. Alléluia. Mm-hmm. Il parlait à Lot et sa famille. Est-ce qu'ils n'ont pas été prévenus? S'il a dit, ne regarde pas derrière, c'est qu'il y avait une conséquence si tu regardes derrière. Alléluia. Bien aimé, arrêtons arrêtons d'accuser Dieu. Il ne t'envoie pas quelque part sans te donner des recommandations. Il ne te dit pas de faire quelque chose sans te donner des recommandations. Voilà pourquoi, bien aimé, on se dit toujours, mais pourquoi rien ne m'arrive de bon dans la vie? Mais tu accuses Dieu tous les jours. Jamais tu bénis l'Éternel pour ta vie, pour les gens qui sont autour de toi, pour ta famille. Mais tu es toujours, ah si Dieu existait aujourd'hui, j'aurais eu ce que je veux. Mais tu es qui pour que quand tu fais ça et puis Dieu te dit, ok mon enfant, je te donne ce que tu veux. Tu ne lui donnes jamais des actions de grâce. Jamais tu dis merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur parce que je marche sans béquille. Merci Seigneur parce que je ne suis pas sur une chaise roulante. Merci. Non, toujours si Dieu existait. Si Dieu existait. Oui, Dieu existe. Ne tarissons pas de faire des louanges pour notre Dieu. Et voilà pourquoi ta vie ne change pas. Et tu vas passer tout ton temps à te plaindre. Là où tu devais faire, c'est-à-dire que là où ton dossier devait peut-être faire une semaine avant qu'on t'appelle, mais ton dossier va faire un an. Comme le peuple d'Israël. 40 jours, ils sont passés quoi? À 40 ans. À cause des murmures. On était en Égypte, on était bien. Vous avez crié. Et il vous a sorti de l'Égypte. Mais toi, tu vas encore retourner en Égypte. Parce que tu es impatient. Parce que tu es impatient. Alléluia. Alors, Genèse 19, verset 26. La parole de Dieu dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Conséquence de la désobéissance. Dieu ne peut pas te dire de sortir d'un endroit et puis t'emmener encore un endroit où il y a un obstacle. Non, il te sort des ténèbres pour t'emmener à la lumière. Mais va, regarde seulement la lumière. Ne te retourne plus. Non, qu'est-ce que tu as laissé? Tu regrettes ton passé? Tu penses qu'il y a des gens qui te poursuivent? Mais Dieu, il a déjà tout cadré, tout calé. Il te dit, va, il est derrière. Plus personne ne peut être entre Dieu et toi. Personne. Donc, il bloque. Il te dit, avance. Les combats sont derrière. Et c'est moi qui combat pour toi, avance. Donc, toi, tu vas encore regarder derrière. Il te dit, va à tel endroit. On t'attend là-bas. Tu dis, ah, mais je n'ai pas reçu un coup de fil. Mais personne n'est venu me dire, mais tu as reçu, non? Il t'a parlé, non? Va! Non, tu poses encore des questions. Ça veut dire que tu veux que l'homme vienne te dire, mais oui, Dieu t'a vraiment parlé. Vas-y. Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu es obligé de tout dire? Tout ce que tu reçois de Dieu? Est-ce que tu es obligé de tout dire? Si véritablement, bien-aimé dans le Seigneur, tu es rempli, j'ai dit rempli, pas avoir, j'ai dit si tu es rempli du Saint-Esprit, le doute ne peut pas être ton partage. Le doute ne peut pas être ton partage. C'est-à-dire que tu fais les choses par la foi. Tu n'as pas vu, mais tu crois que tu l'as déjà. Donc, tu n'as pas besoin de demander aux hommes, j'ai reçu ça, est-ce que tu crois que Dieu peut me parler? Là, tu ne peux pas savoir combien de fois tu irrites Dieu. Donc, tu préfères écouter l'homme, mais tu n'écoutes pas Dieu. Beaucoup d'entre nous nous sommes passés par là. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Donc, la femme de Lot s'est retournée et est devenue statue de sel. Beaucoup diront, mais la recommandation a été donnée à Lot. Mais c'est Lot qui était le chef de la famille, non? Oui, Lot était le chef de la famille. Donc, les recommandations lui ont été données. C'est pour lui et sa famille. Ève a péché. Voilà pourquoi on souffre aujourd'hui. Et Lot, et la femme de Lot, on n'a pas donné son nom, Parce qu'elle a désobéi, elle est devenue statue de sel. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent statue de sel. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent. Parce qu'au lieu de regarder en avant, ils regardent derrière.
Et donc tu restes comme ça. Et puis tu ne peux plus revenir.
Tu ne peux plus revenir devant. Amen. Ah, nous continuons. Il y a des commandements qui nous ont été donnés pour que nous puissions marcher dans la droiture. Dieu veut notre bien. Dieu ne peut pas nous pousser à faire du mal. Alors arrêtons de dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces choses qui nous arrivent. Alléluia. Exode 20. Exode 20. On nous a donné des commandements dans Exode 20. Exode 20, 1 à 7. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il dit, « Je suis l'Éternel. » Donc Dieu te dit ce matin, « Je suis l'Éternel. » Alors tu vas m'écouter. Et si tu n'écoutes pas, il y aura des conséquences. Mais malgré ça, tu ne vas pas dire que c'est à cause de toi qu'il y a ces conséquences. Tu vas dire, si Dieu existait, je n'aurais pas eu ça. Ceci ne serait pas arrivé. Voilà. Il dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il t'a pas venu. Il dit, je suis l'Éternel. Donc, je suis ton Dieu. Et voici ce que je te demande de faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis ton seul Dieu et je suis l'unique Dieu. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Donc, tu ne feras pas des images taillées. Tu ne vas pas te prosterner des images taillées. Tu ne vas pas prendre une pierre et dire, « Ah, voici la pierre qui m'a donné la paix, la joie, comme les enfants de Salomon disent, voici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte en parlant du veau d'or. » Dieu te prévient. Le verset 5. « Tu ne te prosterneras pas devant, point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Notre Dieu est jaloux. » Alléluia. Je suis. Il n'a pas dit j'étais ou je serai. Il dit je suis. Donc, il est toujours là. Amen. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. J'aime toujours parler de Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. J'aime mon papa. Tu l'invoques à tout bout de champ, mais tu ne marches pas selon ses commandements. Mais tu trompes le monde. On te voit avec ta Bible. Tu vas à l'église. Oh, le monsieur là va toujours à l'église. La dame là va toujours à l'église. Mais Dieu regarde ton cœur. C'est-à-dire que devant ton voisinage, parce que tu as toujours la Bible tous les dimanches, tu dis, ah, vraiment la personne là, malgré son travail, il est fatigué, il va quand même à l'église. Tu fais ça pour tromper les gens, et puis tu es là, mon Dieu, mais ce n'est pas ton Dieu, parce que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Tu vas à l'église, mais ton cœur est rempli de haine. Et donc, tu fais ça par ces mécaniques, quoi. Tous les dimanches, je dois aller à l'église. Tu vas à l'église d'abord, pourquoi? Est-ce que tu sais même pourquoi tu vas à l'église? Ça devient une habitude. Voilà, je vais par habitude. Pourquoi ta vie ne change pas? Comment tu peux être devant la présence de Dieu? C'est-à-dire que tous les dimanches, tu te dis, je vais chez mon Dieu. Je vais rencontrer mon Dieu. Tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. On peut dire que l'homme de Dieu de cette église est ceci. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu vas écouter la parole qui va être libérée. Et tu prends ce qui est bon, ce qui est mauvais, tu laisses. C'est-à-dire que tu prépares ton dimanche. Tu l'attends même avec impatience. Ta tenue est préparée de 3 jours, pas à 1 heure. d'aller à l'église, que tu commences à chercher ta tenue, que tu dis, mais j'avais laissé ma Bible. Non, et tu veux que ta vie change? Tu n'as pas préparé ton culte, tu n'as pas mis ton Dieu en avant, tu n'as pas donné la première place, et puis tu t'habilles n'importe comment, tu pars à l'église, tu n'es pas préparé. Tu vas aigri, tu sors aigri. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu aigri, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Tu vas devant la présence de Dieu parce que tu es chargé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, tu déposes toute ta fatigue, tous tes fardeaux à ses pieds. Et lui, il te fortifie, et tu prends son joug léger. Tu sors là-bas avec la joie. C'est-à-dire que ton visage est transformé. Lorsque, comment il s'appelle, Moïse a rencontré Dieu. Quand il est descendu de la montagne, après 40 jours, son visage était comment? Éclatant. On ne pouvait même pas le regarder. Il a dû mettre un voile. Alléluia. Mais toi, quand tu vas à l'église, tu sors de l'église, tu es comment? Tu sors déjà avec les critiques. Tu as vu comment ma soeur était habillée? Tu as vu comment l'homme de Dieu était habillé? Tu as vu comment? Tu commences avec les critiques? Il va arrêter de dire, mon Dieu, tu n'aimes pas ton Dieu. Et Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Alléluia.
Amen.
Et nous prenons Exode 12, Exode 20 à partir du verset 12 au verset 17. Écoutez bien ces commandements. Le verset 12 dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La parole de Dieu a dit quoi? Honore ton père et ta mère. Bien aimé dans le Seigneur. Même des personnes qui ne connaissent pas Dieu, dans les villages là-bas, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais ce commandement-là, que tu connaisses Dieu ou pas, c'est un commandement que tout le monde, tous les parents veulent recevoir de leurs enfants. Alléluia. Quand tu pars du village, pour aller à la ville, parce que tu dois faire des études là-bas, tu dois travailler au village, il n'y a pas des entreprises et tout. Les parents te bénissent. Les parents te donnent des paroles de bénédiction. Ils te disent, tu vas là-bas, mon fils, ma fille. Dieu va t'ouvrir les portes. Des fois, ce sont des gens qui n'ont jamais connu. Mais ils savent qu'il y a un Dieu. Dieu va t'ouvrir les portes. Il ne te manquera rien. Ils vont te prendre les mains. Ils vont te lever ça vers les cieux et tout machin. Ils te recommandent à Dieu. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu n'auras pas ces bénédictions. Parce que sur la terre, ton père et ta mère sont tes dieux. Dieu ne va pas descendre pour te bénir, il passera par tes parents. Donc, vous qui n'honorez pas vos pères et vos mères, ne dites pas, mes parents sont sorciers. Oh, Dieu m'a oublié. Si Dieu existait, il m'aurait déjà trouvé un travail. J'étais major de ma promotion. Pourquoi je ne trouve pas de travail? Oui, tu étais major de ta promotion. C'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. Mais tu as oublié Dieu. Tu as oublié les commandements aussi que Dieu t'a donné. Tu comptes sur ton intelligence, ton éloquence, ta beauté et tout. Mais ça là, que ça te ferme les portes si tu n'honores pas ton père et ta mère. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de la maison de tes parents sans bénédiction. Tu sors, tu vois, bon, je suis parti, hein. Tu n'as pas pris un temps de rester avec tes parents la veille, par exemple, pour parler avec tes parents et que tes parents relâchent des paroles de bénédiction. Non, on t'a appelé pour un travail, tu es content, je serai directeur général de cette entreprise et tout, mais tu pars là, c'est incertain. Parce que tes parents n'ont pas pris tes mains, tes parents n'ont pas prié pour toi, tes parents ne t'ont pas ouvert les portes. Alléluia. Vous allez peut-être dire, ah, moi, tu ne connais pas comment sont mes parents. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce qui est écrit là, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Honore ton père et ta mère, regardez, afin que tes jours se prolongent. Donc, si tu n'as pas la bénédiction de tes parents, bon, tout ce que tu vas faire, c'est éphémère. Tu vas commencer dans une entreprise, on va aimer ton travail. Et puis, un matin comme ça, monsieur, on vous remercie. Pourquoi? Comment? Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Bien, mais chaque enfant vit des choses avec les parents. Donc, ne viens pas dire, moi, mes parents m'ont chassé, Mes parents m'ont insulté. Je suis l'aîné de ma famille. Mais mes parents me rabaissent devant mes frères. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ça fait mal, oui. Mais la parole de Dieu te dit, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit, honore ton père et ta mère si il t'aime. Non, on n'a pas dit ça. Alléluia. Donc, arrête de dire que je me répète, je sais pourquoi je me répète. Pourquoi j'ai pris tous ces versets-là. C'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas Dieu qui enfante le mal. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse au mal. Ce n'est pas Dieu qui nous demande de ne pas nous aimer. Parce qu'il nous a donné un commandement qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il te dit encore, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. À quel moment il y a le mot mal là? À quel moment il y a un truc mal intentionné dans ces versets que je viens de citer? Non. Alléluia. Amen. Donc, je m'adresse à quelqu'un ici ce matin. Tu es peut-être fâché avec tes parents. Et tu es mal entouré. Tu as peut-être envie d'aller parler avec tes parents, leur demander pardon ou de dire, parents, je vous pardonne parce que vous m'avez hérité et tout, mais je reconnais que je suis enfant, je viens vous demander pardon et je vous pardonne. Quand tu veux prendre cette décision, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est toi qui as un problème avec tes parents. Ce n'est pas ton entourage, ce ne sont pas tes amis. Alors quand tu décides d'aller voir tes parents parce que tu as vu que ta vie ne change pas, et là il n'est pas question de, ce n'est pas une bonne église, ce n'est pas un bon pasteur, ce ne sont pas des bons patrons, il n'est pas question de tout ça, il n'est pas question de, ce sont les sorciers de ta famille, il n'est pas question de ça. Tu es bien conscient que tu ne t'es pas bien séparé avec tes parents. Il se pourrait que c'est ce qui me bloque les portes. Oui, c'est ce qui te bloque les portes. Alors va voir tes parents. Devant tes parents, quel que soit ton titre, quelle que soit ta réputation dans le monde, tu n'es qu'un enfant. Comme nous, quand nous allons devant la face de Dieu, que nous soyons bishop par bishop, je ne sais pas quoi, que tu fasses tous les pays du monde pour aller prêcher la parole de Dieu, lorsque tu viens devant Dieu, tu n'es qu'un enfant parce qu'il est notre Père. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, va faire la paix avec tes parents. Va faire la paix avec tes parents et les portes te seront ouvertes. Parole de la Bible. Parole du Seigneur. Amen.
Amen.
Le verset 13 dit, tu ne tueras point. Caïn est parti tuer son frère. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive? On t'a dit, tu ne tueras point. Tu vas tuer. Dieu t'a prévenu que si tu tues, il y a des conséquences. Mais c'était de l'ultime défense. Ultime défense, c'est écrit où dans la Bible? Ultime défense. Il a dit, tu ne tueras point. Vous voyez, quand on s'éloigne de Dieu, le mal est à la porte. On agit selon nos émotions. Amen.
Amen.
Le verset 15 dit ceci. Tu ne déroberas point. Tu déroges. Il y aura des conséquences. Ça va être écrit dans le monde cosmique que tu avais dérobé. Tu n'es pas allé rendre. Tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as pas reconnu cela. Mais tu continues à mener ta vie comme tu l'entends. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on fait ce genre de choses, hein, je vais prendre un exemple. Nous sommes dans une entreprise. Tu es responsable d'un département. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.
Amen.
Tu es responsable d'un département et tu te dis, c'est moi qui suis le chef. Là. Alors, je peux me servir. C'est moi qui passe les commandes de fournitures du travail, de la société et tout. Donc, je peux en même temps commander mes fournitures pour moi et pour mes enfants. Sauf que tu es responsable de ce département. Ce n'est pas parce que tu es responsable de ce département que tout est permis. Ce n'est pas ta société. Ce n'est pas ton argent. Alléluia. Alors, quand tu prends ça, tu fais ça dans le secret. Personne ne voit. Tu reçois la marchandise. Tu donnes à la société ce qu'il faut donner, le reste tu prends. Personne ne te voit. mais celui qui est dans les cieux te voit. Alléluia. Et tout est noté. Donc, il te laisse faire. Toi, tu es content. Tu fais comme tu veux. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Quand Dieu te voit, tu ne sais pas comment il va agir. Tu ne sais pas de quelle manière il va agir pour te punir. Amen. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu fais la même chose. Il va arriver un moment où on va te suspecter. Il va arriver un moment où on va t'attraper. Tu vas nier. Les conséquences, c'est quoi? Si les patrons sont gentils, ils vont te licencier sans pour autant aller porter plainte pour que tu fasses la prison. Amen. Mais ça, c'est l'homme. Mais Dieu sait que tu connais la vérité. Parce qu'il t'a dit ici, tu ne déroberas point. Tu es prévenu, mais tu le fais quand même. Toi, tu penses que Dieu ne te voit pas. J'ai dit, hein, tu ne sais pas comment il va te frapper. Il peut te rendre malade. Tu vas à l'hôpital, on te dit, tu n'as rien. Il peut te sécher les finances. Tu ne sais pas pourquoi. Tu gagnes bien ta vie. On te paye le 30, le 2, tu n'as plus rien. Tu ne sais pas pourquoi, comment. Il peut rendre malade tes enfants. Il peut semer le désordre dans ton foyer. Tu vas commencer à dire, tu vas accuser. Mais tu ne te remets pas en question que si je vis toutes ces choses, c'est parce que j'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Seigneur, tu vois comment je suis gentille. Quand les gens ont besoin de quelque chose, je suis toujours là pour les aider. Tu les aides avec quoi? Avec ce qui ne t'appartient pas. Tu prends dans la société et tu viens donner. Dieu dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Alors, repens-toi. Si tu dois aller de dire à ces personnes ou rendre ce que tu as volé, je ne sais pas. De toute façon, si tu reconnais que tu as fait ça, Seigneur, je reconnais que j'ai volé. Je sais que c'est mal et tout. Dieu te dira quoi faire. Il peut te dire que parce que tu as reconnu, tu t'es repenti, je te pardonne et puis peut effacer le péché. Mais si tu ne reconnais pas, et tu es toujours en train d'accuser. Dieu voit ça. Mais pourquoi? Mais tu oublies que tu as fait des choses qui n'honorent pas son nom. Le verset 16 dit, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Alléluia. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu cherches quoi? Parce que tu veux être bien vu dans ta famille, tu as commencé à aller critiquer tes frères et sœurs chez les parents. Parce que tu veux être bien vu dans la société, tu as commencé à aller raconter n'importe quoi, des faux témoignages chez le patron. Ça là, Dieu condamne ça. Tu cherches l'approbation de l'homme en accusant faussement les autres. Il y a des lourdes conséquences. À cause de toi, un couple peut se séparer. Tu as vu un homme, cet homme, il est marié, tu ne sais pas si c'est sa soeur, tu ne connais pas toute sa famille, tu ne sais pas si c'est sa collègue. Non, tu cours chez la femme, mais j'ai vu ton mari là-bas. Hé, ma soeur, vraiment. Regarde. Et si la femme aussi, c'est une hyper jalouse, le mari arrive, elle va commencer à crier. L'homme va dire, je ne comprends pas, c'est quoi le problème? À cause de toi, tu as sémé le désordre dans le couple. À cause de toi, ton collègue a perdu son travail. La parole de Dieu dit, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Et le verset 17 dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu envies ce qui est chez ton prochain. C'est un péché. Alléluia.
Amen.
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu commets l'adultère. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ce qui appartient à ton prochain, arrête de convoiter, c'est un péché. Il va t'arriver des choses terribles si tu fais ce genre de choses-là. Donc, si nous voulons vivre une vie en paix, alignons-nous sur les commandements de Dieu, tout simplement. Mais qu'est-ce qui t'empêche de marcher véritablement selon la parole de Dieu? Les dires des hommes, alléluia, les regards des hommes. Mais si je ne fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu m'a dit que je dois lui appartenir à 100%. Qu'est-ce que les gens vont dire quand je veux dire que voilà Dieu? C'est que tu as déjà émis un doute, tu as déjà mis un frein. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'on fait. Je me rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, que le jour où le Seigneur m'a dit que je ne veux plus que tu travailles pour les hommes, j'ai dit non, mais il ne peut pas me dire ça. Comment je vais dire à mon mari que Dieu a dit que je ne travaille plus? Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous voyez, on n'a même pas cette attitude de dire que merci Seigneur, amen, que ta volonté soit faite. Non, on commence à penser, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que les gens vont me croire? Qu'est-ce que je suis? J'ai jamais fait des écoles théologiques ou quoi? Je ne suis pas consacrée par les... Mais est-ce que... Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Donc, c'était compliqué pour moi de savoir que je ne pouvais plus travailler. Donc, je ne pouvais pas avoir un salaire qui rentre. Comment je vais faire? Je vais vivre aux dépens de mon mari. Mais est-ce que mon mari va me croire? Donc, toutes ces pensées-là te passent dans la tête. Et le jour maintenant où tu dis oui, Seigneur, ok, tu as dit oui, mais tu as d'abord douté, j'ai discuté avec Dieu, j'ai discuté avec lui. J'allais au travail, bien aimé dans le Seigneur, mais je n'étais pas bien. Quand tu vas au travail, tu dois être content, tu sais que tu vas au travail, mais tu vas au travail, tu n'es pas bien. Et comme Dieu voit que tu es têtu, comme j'étais têtu, il va passer par d'autres personnes pour venir me dire, mais tu fais quoi encore là-bas? Dieu a dit, si tu continues, il va te frapper. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui me connaissent n'importe quoi. Eh bien, ce n'est pas n'importe quoi. Je vous parle de mon témoignage à moi. Et Dieu m'a montré qu'il était Dieu. Et là, tu t'assois et tu dis, merci Seigneur, j'ai compris, je fais ta volonté. Mais n'en arrivons pas là. Quand Dieu t'a appelé, tu as peut-être dit une fois, non, ce n'est pas lui. Il te parle encore une deuxième fois. Il te parle encore une troisième fois. Et tu dis oui. Et quand il voit que tu commences à... Tu hésites toujours, ce qui va susciter une personne que tu ne connais même pas. C'est ce qui m'est arrivé. Une dame que je ne connaissais pas. Par contre, je connaissais sa fille spirituelle. Et sa fille spirituelle me dit, ma mère spirituelle veut te voir. Je dis, je la connais. D'où cette femme? Je ne la connais pas. Imaginez-vous que cette personne, elle habitait loin de chez moi. Et j'ai dit à mon ami là, mais comment je vais faire? Comment je vais dire à mon mari que je vais à tel endroit? Et j'ai dit au Seigneur que Seigneur, si véritablement c'est toi qui as suscité ta servante pour me parler, que rien de cela n'arrive. Eh bien oui, je suis partie chez la dame. Et ce qu'elle m'avait dit, c'est ce que j'avais déjà reçu. Et je suis revenue chez moi sans problème. Bien-aimé, Dieu existe. Si t'arrives des pépins, c'est à cause de ta désobéissance. Dieu, quand tu n'écoutes pas, il va susciter d'autres personnes. Quand Dieu voit que tu doutes trop, il va susciter d'autres personnes. Parce qu'il t'aime. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Il a dit, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Mais ce n'est pas un homme qui m'a parlé. Ce n'est pas un homme qui m'a donné le nom de Jérémie. Ce n'est pas un homme qui m'a consacré prophète de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Je n'ai pas eu l'imposition des mains des hommes. Jamais. Jamais. Ils m'ont dit, oui, tu vas servir le Seigneur. Mais ma consécration vient du ciel. Alléluia.
Amen.
Dieu, il existe. Dieu voit tout ce que nous faisons. Donc, si aujourd'hui, tu passes par des difficultés, tu as des tribulations et tout, ne dis pas que Dieu t'a oublié. Ne dis pas que Dieu n'existe pas. Il existe. Mais il attend que tu lui fasses totalement confiance pour qu'il agisse dans ta vie. Et que toi qui ne l'as pas encore connu, au lieu de dire Dieu n'existe pas, reçois-le, crois en lui et tu verras la manifestation de sa puissance dans ta vie. Mmh. Alléluia.
Amen.
Dieu est merveilleux, n'est-ce pas?
Amen. Ouais.
Regardez. Jésus vient au nom de son Père. Vous parlez ou nous parlez, nous n'écoutons pas. Il dit, tout ce que je viens vous dire ne vient pas de moi, mais vient de celui qui m'a envoyé. On ne croit pas. Il dit qu'il n'est pas venu nous juger, mais il est venu pour que nous soyons sauvés. On ne croit pas. Voilà pourquoi nous commettons toutes sortes de mal. Donc, bien aimé, vous comprendrez que ce n'est pas à cause de Dieu que le monde va mal. Parce qu'on ne l'écoute pas. Il dit, je ne suis pas venu en mon nom. Je suis venu au nom de Dieu. Donc, ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais vient de lui. Jean 12, versets 37 à 50. Voici ce que la parole de Dieu dit. Malgré tant de miracles qu'il avait fait, donc je suis dans le livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 37 au verset 50. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire? Parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes de foi qui ont reçu quelque chose de Dieu, mais qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont honte ou parce qu'ils ont peur d'être rejetés par la société. Il y a des personnes qui sont seules dans leur famille à avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la maison, qui vivent le calvaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aimé. Pourquoi tu suis ce Jésus? Qu'est-ce qui t'a fait et tout? Donc, tu ne peux même pas prier ton Dieu librement. Tu as peur qu'on t'attrape, donc, bien-aimé, tu t'éloignes de Dieu. C'est-à-dire que l'entourage peut t'empêcher de croire en Dieu. Amen. Le verset 43 dit, « Car ils amenèrent la gloire des hommes plus, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alléluia. Donc, Jésus est venu comme une lumière. Il dit, « Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Maintenant, tu as reçu la lumière. Parce que tu as des tribulations, tu veux retourner dans les ténèbres. Parce que telle personne ne t'aime pas, tu dis, ah, comme j'ai accepté Jésus, les gens me rejettent même pas, donc je vais laisser Jésus parce que je veux l'amour des hommes. Vous voyez? Lorsque tu as accepté Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, les tribulations seront là. Les tentations seront là. Alors, si tu émets le moindre doute, tu tombes et tu retournes dans les ténèbres. Alors qu'il a dit ici, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc voilà ce que le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas? Maintenant, le verset 47 dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Alléluia. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Donc, bien aimé, non, Seigneur, si Dieu te dit, ceux qui volent n'hériteront pas du royaume des cieux. Il nous a prévenu, non? Donc, si tu voles, est-ce que c'est lui qui te condamne encore? C'est la parole que tu as reçue qui te condamne. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que tu as été averti. Donc, il dit ici, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu nous condamner. Il n'est pas venu nous juger, mais il est venu pour que nous soyons sauvés. Alléluia.
Amen.
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen.
Amen.
Dieu est merveilleux.
Amen.
Et il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même de ce que je dois dire et annoncer. Amen. Mm-hmm. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je ne suis pas venu de moi-même. Ce que je dis ne vient pas de moi. Ce que je dis vient de Dieu. Et lorsque je parle, je m'appuie sur les saintes écritures. Alors, si vous ne croyez pas en ce que je dis, ce n'est pas en moi que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. Amen.
C'est ça. Amen.
Souvent, on rejette les gens. Lorsqu'on vient évangéliser, les gens s'attendent à voir, excusez-moi, le pasteur d'une église de grande renommée. Parce qu'il y a certains pasteurs qui vont quand même sur le terrain aller évangéliser. Là, tu vas voir comment les gens vont venir, vont dire, « Ah, j'ai vu l'homme de Dieu à la télé. » Donc, s'il dit ça, c'est vrai et tout. Les gens vont courir après l'homme. Les gens ne vont pas courir après la parole de Dieu. Donc, toi qui suis le pasteur, tu vas, dire, tu vas évangéliser, les gens vont t'esquiver alors que ce n'est pas toi qui viens. Ce n'est pas le pasteur qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé, dit, va vers cette personne. Mais toi, tu regardes la personne comme si c'était, non, mais attends, tu n'es pas pasteur, tu viens m'évangéliser, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais tu n'as pas rejeté ton frère là qui vient t'évangéliser. Tu as rejeté Dieu. Parce que tu veux que ce soit l'homme qui vient te parler, mais pas ce que la personne a reçu de Dieu. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ratent leur bénédiction parce que ils auraient voulu que ce soit le pasteur qui prie pour eux ou le pasteur qui les évangélise. Mais vous avez tout faux, bien aimé dans ce lien. Parce que Dieu parle à qui il veut. Il envoie qui il veut. Il met son esprit sur qui il veut. Donc, si tu ne crois pas, tu penses que tu fais du mal à la personne, non. Et toi, que les gens ne croient pas, ne t'irrite pas, parce que tu n'es pas venu de toi-même. Tu es envoyé de Dieu. Mais là, si la personne ne te croit pas, amen, dis-lui tout simplement, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que vous aimez croire aux personnes qui sont adulées par les hommes, approuvées par les hommes, mais pas approuvées par Dieu. Dieu peut prendre, excusez-moi, quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a pas d'abri, et qui vient te dire, tu sais que Dieu t'aime, tu vas mépriser la personne, parce que comment la personne est habillée, la personne n'a pas de toit, la personne est plus, comment elle peut venir me dire que Dieu m'aime. Ah, tu as rejeté Dieu. Parce que Dieu, il prend qui il veut pour manifester sa gloire. Manifester sa toute puissance. Alléluia.
Amen.
Donc Jésus dit que il n'est pas venu de lui-même. On l'a envoyé. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce qu'il dit là ne vient pas de lui. Donc si tu ne crois pas en Jésus, c'est que tu ne crois pas en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Faisons attention à nos comportements bien-aimés dans le Seigneur. Même nous qui sommes enfant de Dieu, que par la grâce de Dieu, on sert Dieu. On choisit de fois les personnes vers qui on va. Tu ne peux pas parler à telle personne parce que ben n'est pas encore en Christ, mais c'est pour cette personne que Dieu t'a établi sur la terre. Tu ne peux pas aller dans cette église où on t'invite parce que bon, cette église n'a pas une grande renommée. Mais c'est peut-être là-bas que le Seigneur va manifester sa gloire dans ton ministère. Et c'est peut-être la parole que Dieu va te donner pour cette église, que les gens vont être transformés. Mais toi, tu attends qu'on t'invite dans les méga églises. Les églises où les hommes de Dieu, les servants de Dieu ont une renommée. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vas te dire pourquoi je n'avance pas. Pourquoi mon ministère ne décolle pas. Et pourtant Dieu voit comment je suis dévoué pour son œuvre. Non, tu n'es pas dévoué pour son œuvre. Parce qu'il t'a dit, va dans cette petite église. Tu as dit non, Dieu sait que je suis dans une grande église. Comment il peut me demander encore d'aller dans cette petite église? Et tu oublies que tu as commencé comme ça. Et c'est là où le doute commence à rentrer en toi. Que si véritablement Dieu m'avait appelé. Oui, Dieu t'a appelé. Mais sauf que tu ne marches pas comme Dieu. Et quand tu ne marches pas comme Dieu, il te montre qu'il est Dieu. Et tu vas passer toute ta vie à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Tu ne vas pas avancer. Dieu te parle ce matin. Parce que tu es têtu. Dieu nous parle ce matin parce que nous sommes têtus. Nous sommes ses témoins sur la terre, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande. Nous voulons faire les choses à notre manière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le ministère des enfants perdus parle toujours de la repentance et que je ne peux pas prêcher sans parler de la repentance. Alors, ce matin encore, le Seigneur nous appelle à la repentance. Il est lumière. Il veut que nous soyons lumière. Cherchons véritablement Dieu pour pouvoir marcher selon les saintes écritures. Sinon, nous avons raté notre mission. Et nous ne sommes pas là pour rater la mission que Dieu nous a confiée. Amen.
Amen.
Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous invite à fuir la débauche. La débauche nous éloigne de Dieu. Et loin de Dieu, c'est la perdition, c'est la confusion, c'est la mort éternelle. Et nous osons dire, si Dieu existait, tout ceci n'arriverait pas. Mais bon sang, nous avons été avertis, non? Le mal ne vient pas de Dieu, la désobéissance a des conséquences. 1 Corinthiens 6, versets 6 à 11. 1 Corinthiens 6, versets 6 à 11. Non, plutôt 1 Corinthiens 6, oui, versets 9 à 11. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Tu vis dans l'injustice, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair, c'est net et c'est précis. Donc si tu commets ces choses, ne dis pas que si Dieu existait, je n'aurais pas fait la prison. Si Dieu existait, tu voles, tu vas en prison. Tout simplement. Tu commets la prostitution là, Dieu ne te regarde pas parce qu'il t'a dit que si tu commets ces choses, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Donc, si tu as commis ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir et demander à Dieu de t'aider de ne plus recommencer. Parce qu'on dirait toujours, oh, nous sommes des êtres humains, hein? Dieu comprend, on peut tomber. Tous les jours, tu vas dire, Dieu comprend, on peut tomber. Tous les jours, tu vas dire ça. Et où tu mets la repentance? Tu ne te réponds pas. Et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Et lui-même, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on est obligé de demander le recours de Dieu. Donc, tout ça, là, c'est écrit. Pour ça, j'ai dit qu'il y aura beaucoup de lectures pour que nous puissions comprendre. Parce que les gens, nous sommes trop rapides pour dire, si Dieu existait. Mais regarde, Dieu te dit, de ne pas commettre, de ne pas vivre une vie de débauche, idolâtre, adultère, tout ça. Mais tu fais, et tu veux que Dieu fasse quoi avec toi? Tu es dans la désobéissance et tu vis dans la désobéissance. Tu entretiens la désobéissance et tu veux vraiment avoir la lumière dans ta vie. Non, mais tu t'enfonces dans les ténèbres. Tu t'enfonces dans les ténèbres. Donc, peut-être que tu t'es ignorant. Comme Dieu nous connaît, il dit, bon, si je ne leur donne pas de recommandations, ils vont mener leur vie n'importe comment et c'est la perdition. C'est comme une maison, dans une famille, s'il n'y a pas des lois, si vous ne dites pas aux enfants qu'il ne faut pas faire ci, à telle heure vous devez rentrer, tel enfant doit faire la vaisselle, si vous ne leur dites rien, ils font comme ils veulent. Tu vas dire, mais pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle? Mais tu ne m'avais pas dit que c'est moi qui devais faire la vaisselle. Et pourquoi tu rentres, il est 19h, mais tu ne m'as jamais dit qu'il y avait une heure pour rentrer? C'est le désordre total. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de désordre dans nos vies, pour que nous soyons véritablement à l'image de Jésus, eh bien, il donne des recommandations. Quand tu voudras commettre l'adultère, oh non, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Tu te retiens. Donc, la parole de Dieu, elle est là pour nous guider. Regardez. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si Dieu nous dit de ne pas nous conformer aux choses de ce monde, parce qu'il sait qu'il y a des conséquences. Dans le monde, si tu es d'une famille pas aisée, riche, vraiment vous mangez avec difficulté, vous avez du mal à vous en sortir, il y a l'argent facile. Tu deviens dealer ou tu fais la prostitution et tu as ton argent facilement. Et tu dis, je veux sortir ma famille de la pauvreté. Je veux me sortir de la pauvreté. Alors, voici un moyen facile. Ça, c'est le monde. Sachant bien que la parole de Dieu nous dit, les prostituées n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les prostituées, ce sont les enfants, les créatures de Dieu, n'est-ce pas? Dieu aime les prostituées. Mais Dieu n'aime pas la prostitution. Donc, en tant qu'enfant du monde, c'est peut-être normal. Mais toi, enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Donc, si tu veux quelque chose, tu t'adresses à qui? À ton Père. Il dit, demandez et on vous donnera. Donc, si tu veux vivre sans problème avec Dieu, marche selon sa parole. Tu veux manger, Seigneur, j'ai faim. Il sait que tu n'as pas d'argent, il sait que tu ne peux rien. Forcément, il va te donner à manger. Il va susciter une personne pour te donner à manger. Alléluia. Donc, ne nous conformons pas au siècle présent. Une nation, un peuple qui marche sans Dieu, qui marche sans les principes, les lois, les préceptes de Dieu, est une nation, est un peuple perdu. Et tout ce qu'il fait est voué à l'échec. Amen. La parole de Dieu dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc, si cette nation n'a pas Dieu, c'est la perdition. Si cette nation marche comme elle veut, c'est la mort éternelle. Prions pour nos nations. Prions pour les peuples. Prions, prions. On ne prie pas. On ne s'adresse pas à Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, on condamne, on accuse les autorités et tout. Bien, mais dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il nous demande de prier. Mais si nos regards sont focalisés sur les situations qui se passent dans nos nations, sans pourtant regarder à Dieu, parce que c'est lui qui a la solution à tous les problèmes, tout ce que nous ferons est voué à l'échec parce que Dieu n'est pas dedans. Nous sommes fatigués de vivre cette situation. Alors on dit, si Dieu existait, il aurait vu que dans ce pays, il y a des innocents qui payent pour ces grandes personnes. Dieu voit tout ça. Dieu ne nous a pas établis comme juge. Il a envoyé son fils sur la terre, pas pour nous juger ou nous condamner, mais pour que nous soyons sauvés. Qui sommes-nous? Qui nous a établis juges pour juger les autorités? Qui? Il dit prier. Et comme on ne prie pas, on est focalisé sur les bêtises de toutes ces autorités, et bien Dieu nous regarde et on dit, est-ce que Dieu ne voit pas? Si Dieu existait, si Dieu existait, Dieu existe. Sauf que nous, nous faisons comme nous voulons. Nous avons rejeté Dieu pour pouvoir faire justice nous-mêmes. En voulant faire justice nous-mêmes, nous commettons l'irréparable. Et nous aurons que nos yeux pour pleurer. Et on va commencer à dire, oh Dieu, oh Dieu. Mais la façon dont tu invoques Dieu, c'est par des plaintes. Aucune action de grâce pour ton Dieu. Si tu dis, merci Seigneur, pour ce qui se passe, peut-être qu'à travers ça, il y a quelque chose de grand qui va sortir. Non, on ne lui rend pas des actions de grâce, mais vraiment Dieu, hein, je me demande si j'ai bien fait d'accepter Jésus dans ma vie. Ah, bien, réponds-toi de ce que tu as dit ça. Réponds-toi même tout de suite. Réponds-toi. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il t'a dit quoi? Prends courage. Dans ces tribulations-là, prends courage. Je suis là, je suis vivant, je vois. J'agirai en mon temps. Dans les tribulations-là, tu dois faire quoi? Te plaindre? Non. Tu dois prier. Tu dois remercier Dieu pour toutes choses. Tu dois amener les gens à prier. Sortir les gens de leur murmure. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens faire souffrir les autres. Non, ce n'est pas Dieu qui pousse à toutes ces autorités de faire du mal. Non, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme animal de la personne. C'est le mauvais cœur de la personne. Ce sont ses émotions, ses sens qui se réveillent et qui dit, je suis celui qui commande cette nation. Je suis, je suis, je suis. Il y a un seul je suis. L'Éternel des armées. Alléluia. Un seul je suis, l'Éternel des armées. C'est ce qu'il a dit à Moïse, d'aller dire au peuple, non? Que je suis. Amen.
Amen.
Donc, bienvenue dans le Seigneur. 2 Timothée 3, 16, 17 dit ceci. C'est pour vous dire que ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 à 17 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc la parole de Dieu n'est pas là pour nous condamner. Elle est là, bien-aimée dans le Seigneur, pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Le verset 17 dit, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, afin que toute autorité soit accomplie. » C'est-à-dire que tu n'es pas là, je ne sais pas, juger, condamner n'est pas notre partage. La parole de Dieu, lorsque quelqu'un donne une révélation, elle vient de Dieu. Lorsque moi, prophète Jérémie, je donne une révélation, je n'invente pas les révélations. Ce ne sont pas des rêves que je transforme en révélation. Je parle au nom de l'Éternel. La parole de Dieu me dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Donc, lorsque Dieu me donne une recommandation, une révélation pour lui, c'est pour que les personnes qui sont concernées retrouvent le droit chemin. Pour que les personnes qui sont concernées viennent à la repentance. Alléluia. Alors, je ne suis pas là pour transformer les rêves en révélation. Amen.
Amen.
Dieu nous aime. Voilà pourquoi il parle. Voilà pourquoi il avertit. Voilà pourquoi il m'envoie nous parler. Parce que nous nous sommes détournés de la face de Dieu. Et lorsqu'une révélation est donnée, tout le monde est dans l'incrédulité en disant, c'est encore une révélation de trop. Qui est cette personne? Est-ce que véritablement c'est Dieu qui lui parle? Oui, c'est Dieu qui me parle. Et lorsque je donne une révélation, c'est parce que Dieu m'a envoyé. Et Dieu veut que nous changeons de comportement, mais ce n'est pas pour nous condamner ou nous juger, mais pour que nous arrivions à la repentance. Alors, repentez-vous de ce que vous rejetez les révélations de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, dans 2 Timothée 3, versets 6 à 17, l'apôtre Paul nous enseigne comment les Écritures bénissent. Alléluia. La Bible, ou du moins la parole de Dieu, est là pour mettre en lumière nos fautes et nos faiblesses, c'est-à-dire pour nous rendre, pour nous reprendre et nous corriger. Donc, la parole de Dieu a un but bien précis. Ce n'est pas pour nous condamner. Alors, arrêtez de minimiser, de sous-estimer, de rejeter les révélations de Dieu. Je parle en tant que prophète Jérémie et prophète de l'Éternel, mandaté par lui. Je ne me recommande pas moi-même et je ne parle pas en vain. Je parle parce que le Seigneur a parlé. Et ce que le Seigneur a dit, pour toutes les révélations que j'ai dit, les choses vont s'accomplir. Soyez patients, les choses vont s'accomplir. Mais avant que le décret de Dieu ne tombe sur le peuple, sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, revenez à Dieu par la repentance, pour pouvoir accéder au salut. Amen.
Amen.
Regardez ce que nous dit Galates 5, à partir du verset 19 à 21. Alléluia. Et Galates 5, 19 à 21, c'est pour vous montrer encore que si nous commettons ce genre de choses, bien aimés dans le Seigneur, il y aura des conséquences terribles. Toi, Dieu, quand il va commencer à frapper, c'est pas les gens du dehors qui va frapper, c'est d'abord nous qui sommes dans sa maison. Parce que nous sommes censés connaître la vérité et nous sommes censés marcher selon la vérité. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 19. La parole de Dieu dit ceci: or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre Paul dit ceci: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous sommes encore avertis. Mais vous verrez que les enfants de Dieu commettent encore ce genre de choses. Et ce sont les enfants de Dieu qui disent, si Dieu existait, my God, repentez-vous de ce que vous ne comprenez rien dans la parole de Dieu. Il nous avertit. On ne connaît pas ces choses. Bon, comme mes enfants ne connaissent pas ces choses, je veux leur dire ça. Mais vous trouvez dans la maison de Dieu toutes ces choses. Des ivrognes. Il y a des pasteurs qui boivent la nuit, qui se saoulent le samedi soir et dimanche, ils viennent sur la chair prêcher la parole de Dieu. Repentez-vous, ministre de Dieu. Repentez-vous. La parole de Dieu dit que c'est à cause de nous, les chrétiens, que le nom de Dieu est bafoué chez les païens. Non seulement vous buvez le soir, vous êtes ivrogne, vous frappez vos femmes, vous insultez vos femmes, le matin, vous venez sur la chair prêcher la parole de Dieu. Et vous inventez les prophéties. Voilà pourquoi le monde dit nous avons marre de ces prophéties. Je me lève là ce matin en tant que servant de l'Éternel, prophète de l'Éternel. Moi, les prophéties que je donne me viennent tout droit de l'Éternel des armées. Alors je demande au corps du Christ, repentez-vous. Trop de dérèglements dans la maison de Dieu. Trop de dérèglements. Honte à vous. qui connaissaient la vérité et qui prêchaient le mensonge. Et qui vous comportaient comme vous voulez, alors qu'il y a des recommandations qui nous ont été données. Seigneur, pardonne-nous. Si tu te reconnais dans ce message, repends-toi. Repends-toi. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui le font. Les samedis soirs, en train de fêter. Pas devant la Bible, mais devant des bouteilles d'alcool. À quel moment tu as médité? À quel moment tu as pris un temps avec ton Dieu pour préparer le culte de ce matin? Et vous venez tranquillement devant la présence de Dieu. Vos Bibles, vous ne pouvez plus les porter. Ce sont les enfants qui portent vos Bibles. Vous venez dans des tenues cintrées pour attirer le regard du peuple sur vous. Répondez-vous. Alléluia.
Amen.
J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Parce qu'il est en train de nous faire du bien ce matin. Toi, depuis ta position, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Parce qu'il nous parle ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que Jacques 1 nous dit au verset 13 et au verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est Dieu qui m'a tenté. C'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne tente personne. Dieu ne pousse personne à la tentation. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. La convoitise est un péché. Jésus a été tenté, mais il ne s'est pas laissé tenter. Vous me direz, je ne suis pas Jésus. Mais tu as accepté qui dans ta vie? Tu as cru en qui dans ta vie? Alors la personne en qui tu as cru, la personne que tu as reçue, te donne la capacité de résister devant les tentations. Et tu peux le faire. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur la tentation. Et tu fais asseoir la tentation. Arrière de moi, Satan, je ne serai pas tenté. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Il le dit dans Luc 10, 19. Alléluia. Luc 10, 19. Donc, lorsque tu es tenté à faire quelque chose, ne dis pas, c'est Dieu qui m'a tenté. Si j'ai fait ça, c'est Dieu. C'est faux. Alléluia. Donc, Jacques 1, verset 13 à 15. Si les épreuves viennent de Dieu, Dieu nous éprouve. Dieu, il nous éprouve. Les tentations, elles, ne viennent pas de lui. Alléluia.
Amen.
Dieu met son peuple à l'épreuve pour fortifier son caractère. Il ne l'incite pas à l'échec. Donc, les malheurs qui nous arrivent sont les conséquences de notre désobéissance. Amen. Les malheurs qui nous arrivent sont les conséquences de notre désobéissance. Donc Dieu ne nous tente pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Sors de ton langage cette phrase. Si Dieu existait, je ne vivrais pas cette situation. Si Dieu existait, je ne serais pas malade. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Si Dieu, on, et vous remarquez que Dieu est accusé. Dans tout ce qui nous arrive, on accuse Dieu. Mais on ne se remet jamais en question. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui a déplu à Dieu, je ne me rappelle plus. Saint-Esprit, rappelle-moi. Arrêtons d'accuser Dieu. Que cet esprit-là, d'accusateur en toi, te lâche ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de désobéissance qui t'éloigne de Dieu et qui te pousse à commettre le mal te lâche ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de jalousie comme Caïn te lâche ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces esprits qui ne confessent pas le nom de Dieu, qui t'éloignent de Dieu et qui te poussent à faire du mal, te libère ce matin. Je dis que ces esprits te libèrent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit colérique qui est en toi, Dieu te parle ce matin. Que la colère ne vienne pas de lui, que le mensonge ne vienne pas de lui, que la rébellion ne vienne pas de lui. Alors que tous ces esprits te lâchent maintenant. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur parce qu'il te parle ce matin. Si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne pourras pas recevoir ta délivrance. Que ces esprits te lâchent et dis oui Seigneur, je vais être délivré ce matin parce que j'en ai marre d'être loin de toi. J'en ai marre de commettre l'irréparable. Seigneur, je veux venir à toi. Oui, Père, donne-moi la force et le courage de sortir de toutes ces iniquités. Donne-moi la force et le courage d'accepter ma délivrance ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.
Alléluia. Si tu veux être délivré ce matin de tous ces esprits qui t'éloignent de Dieu, qui te poussent à commettre l'irréparable, qui te poussent à dire que Dieu n'existe pas, puis mais ouvre ton cœur. Parce qu'il veut que tu sois délivré ce matin. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu sortes de l'iniquité. Il veut que tu sortes du murmure. Il veut te libérer ce matin. Il veut te libérer ce matin. Tu ne peux pas avoir écouté ce message et qu'il n'y ait pas un changement et qu'il n'y ait pas une transformation dans ta vie. Je te parle de la part du Seigneur. J'ai lu beaucoup de versets pour nous faire comprendre que ce n'est pas moi qui invente, mais pour nous faire comprendre que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante et c'est Dieu lui-même et qu'il existe. Et qu'il existe. Toi qui es enfant de Dieu, tu passeras par des épreuves, mais ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves que Dieu n'existe pas. Dieu est en train de t'éprouver. Alors sors, sors des murmures. Arrête de dire si Dieu existait, je ne vivrais pas cette situation. Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais parce que cette personne passe par des difficultés, c'est-à-dire que cette personne ne s'en sort pas. Et dit, quand j'étais dans le monde, je ne vivais pas ça. Mieux je retourne dans le monde. J'aimerais te dire aujourd'hui par les compassions de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié. Pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés, mais quelqu'un a payé le prix. Jésus a payé le prix pour toi. Il a été humilié à cause de toi. Il s'est humilié pour toi jusqu'à la croix. Pour que tu sois sauvé. Il y a un prix à payer. Ton épreuve, c'est peut-être ton désert. Mais tu sortiras du désert. Tu es peut-être dans un tunnel où tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne vois pas la lumière. Tu verras la lumière. Sois patient. Que le flux de l'esprit soit ton partage. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'éprouve. Vis cette épreuve avec patience et glorifie son nom dans toutes tes épreuves. Remercie ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Il veut tout simplement que tu t'abandonnes à lui. Il veut tout simplement que tu dises, Seigneur, me voici. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai voulu te laisser, parce que je vis une situation, Père, qui me dépasse. Cette situation te dépasse toi, mais cette situation ne dépasse pas ton Dieu qui vit, ton Dieu qui est vivant, ton Dieu qui est tout puissant. Aucun obstacle ne lui fait peur. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu est là ce matin pour te ramener sur le droit chemin, pour te fortifier, toi qui étais faible, toi qui t'es dit je vais lâcher la main de Dieu. Sois fortifié ce matin. Et j'aimerais te dire que Jésus t'aime Et personne ne peut t'aimer comme Jésus. À toi, bien-aimé, qui suis ce message et qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Parce que tu te dis, je suis voleur, je suis prostituée, je suis menteur, le monde m'a rejeté. Est-ce que Jésus, dont tu viens me parler, va m'accepter? Je t'ai dit oui sans hésiter. Parce que c'est pour toi qu'il est venu. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui étaient perdus. Assurément, tu es perdu parce que tu es dans l'ignorance. Tu ne connais pas les bontés de Dieu. Tu ne connais pas son amour. Ce matin, je viens te présenter son amour. Je viens te dire qu'il t'aime. Il te prend tel que tu es. Et c'est lui qui va te transformer. C'est lui qui changera ta vie. C'est lui qui va te redonner le sourire que tu as perdu à cause des critiques de ton entourage. C'est lui qui va te redonner la paix, la joie. Et il va te donner l'assurance. Je te présente ce Jésus ce matin. Si tu veux accepter Jésus, cette prière est inspirée du verset Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque, tu fais partie de ces quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, je sais que je pêche et que je ne peux me sauver moi-même. Merci de m'aimer au point d'avoir envoyé Jésus qui n'a jamais péché. Prendre ma place sur la croix afin que je puisse être pardonné et obtenir la vie éternelle au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Donc, n'hésite pas de demander pardon à Dieu. Lorsque tu as péché, ne cherche pas le regard des hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Dieu est merveilleux. Vous voyez, ce matin, je commence les cultes tous les dimanches à 11h. Je me suis réveillée très tard. Et donc, j'ai commencé le culte tard. Et je m'en voulais. Je me suis dit, est-ce que je fais le culte ou je ne fais pas le culte? J'ai béni l'Éternel qui m'a fortifié. J'ai demandé pardon pour ce retard. Et Dieu m'a pardonné. Et j'ai pu parler de sa parole qui a certainement sauvé quelqu'un ce matin. Pas parce que j'ai parlé, mais parce que c'est ce que fait la parole de Dieu. Alléluia.
Amen.
Et j'aimerais vous dire ceci, que ce message sera aussi diffusé sur le site internet, vous connaîtrez l'Éternel 37. Alléluia. Alors, vous trouverez toutes mes prédications sur ce site. Amen.
Amen.
J'espère que quelqu'un a été béni ce matin.
Amen.
J'espère que quelqu'un ne dira plus si Dieu existait. Parce que j'ai pris beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais c'est nous qui vivons dans l'iniquité. Et lorsque nous ne pouvons plus nous en sortir, nous disons, si Dieu existait, je ne serais pas passé par là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Amen.
Amen.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dimanche prochain, nous avons commencé un thème depuis le mois de décembre, mais que nous allons clôturer dimanche. Et le thème, c'est la procréation dite verticale, mais nous allons terminer avec la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie vraiment que ce message ne soit pas tombé dans les oreilles. Alléluia, oubliez, mais que vous méditez sur ce message parce qu'il était important que Dieu nous donne ce message. Il a vu comment est-ce que nous sommes découragés et le découragement te pousse même à renier Dieu. Amen. J'aimerais te dire encore ceci. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que nous allons bientôt terminer ce culte. Je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui se sont connectées. Alléluia. Le prophète Daniel, l'apôtre Paul et la sœur Renée et bien d'autres. Alléluia. Qui se sont connectées mais n'ont pas mis leur nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ayez toujours le regard sur lui et faites-lui confiance en tout et pour tout. Amen.
Amen.
Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, te glorifie et te magnifie encore ce matin. Seigneur Dieu de gloire, je te recommande cette journée et je te recommande toutes les personnes qui se sont connectées. Seigneur, souviens-toi d'eux, Père éternel tout-puissant. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te recommande cette semaine qui va commencer et ce mois de février. Tu nous as fait grâce, ô Père de gloire, de voir ce mois. Merci, Seigneur. C'est une grâce. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, que ce mois de février soit un mois où nous te cherchons véritablement, où que nous soyons encore connectés davantage, qu'aucune épreuve de la vie ne vienne nous éloigner de toi, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ce mois, bénis le travail de nos mains, bénis nos ministères, nos familles, éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Acclamons Amen. Le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bien-aimé, le service continue toujours, n'est-ce pas, parce que le culte est fini, non? Peut-être que Dieu te donnera une parole pour quelqu'un. Amen. Continue à servir Dieu tout le long de cette journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie, du ministère des enfants perdus. Amen.
Amen.